Radio Okapi.
Ebola à la une avec cette inquiétude des responsables des cités déplacées de la ville de Bounia. Alors que des cas sont enregistrés dans la ville, aucun mécanisme de protection n'est mis en place en ce lieu qui pourtant rassemble un grand nombre de personnes. Nous serons à Goma à voir comment la prévention d'Ebola s'organise au niveau des familles. Cela alors que les enfants ont repris le chemin de l'école ce mardi, soit au troisième jour de la confirmation d'un cas d'Ebola dans la ville. Comme invité, Dr Georges Baka, directeur médical adjoint à l'hôpital de référence secondaire de Kinkanda à Matadi. Il nous parle de l'hypertension artérielle qui constitue aujourd'hui un véritable problème de santé publique. C'est en marge de la journée internationale de lutte contre cette maladie le 17 mai. Madame, Monsieur, bonjour. Nous commençons à Bounia. Les cités déplacées de l'ISP de Kigonze, qui accueille plus de 30 000 personnes, ne disposent pratiquement d'aucun mécanisme adéquat de protection contre l'épidémie d'Ebola. Selon les responsables de ces sites, certains déplacés recourent à des moyens traditionnels, notamment l'utilisation des cendres à la place de savon pour tenter de prévenir la maladie. Ils dénoncent également l'ignorance des mesures barrières par une grande partie des sinistrés. Cette situation les expose davantage au risque de contamination. Qu'en est-il Isaac Raymond?
Dans les sites de déplacés de l'ISP de Kigonze, les moyens de prévention contre Ebola restent très limités. On n'y trouve pratiquement ni cache-nez, ni désinfectants, encore moins des dispositifs adéquats de lavage des mains. Certains utilisent des simples morceaux de tissu ou des pagnes mal entretenus comme moyen de protection. D'autres recourent à la cendre, faute de savon et à raison de l'insuffisance d'eau potable pour le lavage des mains. Face à cette situation, les déplacés demandent au gouvernement ainsi qu'aux partenaires humanitaires de leur fournir le matériel nécessaire afin de protéger des milliers de vies humaines exposées dans ces camps. Etienne Ngoutsi, président du site de Kigonze.
Nous n'avons pas de cache-nez, soit des désinfectants. Nous utilisons des cendres pour se protéger contre ce virus.
Outre le manque de moyens de prévention, certains comportements à risque exposent également les déplacés à la contamination. Les responsables des sites évoquent notamment la manipulation des corps des personnes décédées. Ils citent le camp d'un jeune dont la dépouille a été ramenée d'Iga Barrière vers le site de Kigonze. Un autre déplacé âgé de 39 ans et décédé sur place dans la nuit de dimanche en lundi au site de l'ISP. Selon des responsables communautaires, cette situation démontre la nécessité de renforcer davantage les campagnes de sensibilisation au sein des populations déplacées, précise Gérard Maki, vice-président du site. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
À Goma, au Nord Kivu, les enfants ont repris le chemin de l'école aujourd'hui mardi, au troisième jour de la confirmation d'un cas d'Ebola dans la ville. Dans les familles, quelques parents ont pris soin de rappeler les mesures barrières à leurs enfants avant qu'ils ne retrouvent la foule de cours de récréation. Pour beaucoup, cela implique l'achat de cache-nez et de désinfectants, mais les défis restent de taille. Cette nouvelle alerte sanitaire touche une population déjà durement fragilisée économiquement depuis la crise de janvier 2025. Alors, comment les familles s'organisent-elles face à cette situation? Le point avec Rosalie Zawadi.
Dans les écoles primaires de Goma, ce mardi matin, un seul sujet au cœur des discussions, Ebola. La plupart des enfants sont informés de la réapparition du virus dans la ville. Certains disent avoir été sensibilisés à la maison sur les gestes de prévention à adopter.
Nos parents nous ont sensibilisés parce qu'il y a une maladie qui s'appelle Ebola. Aujourd'hui, à l'école, on s'est lavé les mains avec du savon. Arrivé au rassemblement, la directrice nous a sensibilisés. Les signes qui peuvent montrer que quelqu'un a l'Ebola. Il y a l'hémorragie, les vomissements, la forte fièvre, maux de tête et des faiblesses inhabituelles. Et aussi, elle nous a parlé des mesures barrières.
Cependant, si de nombreux parents s'efforcent d'appliquer les mesures barrières à domicile, tous ne disposent pas des moyens nécessaires pour équiper leurs enfants en masques et en gel désinfectant. Rencontré devant une école, un père de famille confie que depuis la crise économique qui frappe Goma, ses ressources se sont considérablement réduites. Il espère néanmoins réunir un peu d'argent dans les prochains jours pour se procurer du matériel de protection pour ses enfants. Une charge supplémentaire qui vient alourdir un quotidien déjà difficile pour de nombreuses familles de Goma.
Et face à l'épidémie d'Ebola qui sévit en Ituri aussi, la vigilance est de mise sur les axes routiers. Les agences de transport qui assurent la liaison entre Bunia et Kisangani prennent des dispositions pour éviter la contamination des voyageurs. C'est notamment par la sensibilisation aux mesures barrières. Cela se passe notamment dans les parkings de véhicules en partance pour Bunia. Qu'en est-il, Jacques Mokonkole?
Dans les différents parkings de Kisangani, le message passe en boucle avant chaque départ. Ce sont les camionneurs eux-mêmes qui prennent l'initiative de briefer les passagers en partance pour l'Ituri. Une démarche saluée par les voyageurs qui demandent d'ailleurs un suivi strict tout au long du voyage.
Si dans toutes les barrières on fait des gestes de barrières pour laver, lavage des mains avec du savon et des cendres, ça pourrait nous aider aussi.
Même rigueur du côté des bus de transport en commun. Au moment de l'embarquement, les gérants rappellent les réflexes de base. Lavage régulier des mains, interdiction des contacts physiques inutiles et signalement immédiat de tous symptômes suspects.
Je prépare mettre l'eau pour laver les mains dans l'entrée, à chaque barrière aussi, et aussi porter des cache-nez.
Nous avons pris la disposition de nous procurer des cache-nez pour les membres d'équipage, les savons et les lave-mains.
Malgré ces précautions, la peur reste vive. Par prudence, certains usagers ont tout simplement choisi d'annuler ou de reporter leur voyage vers l'Ituri. Ils affirment attendre une communication plus claire des autorités sanitaires sur l'évolution réelle de l'épidémie avant de reprendre la route. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Merci Jacques Mkonkole. Mais alors, quelles sont les mesures à respecter pour éviter de contracter la maladie à virus Ebola? Suivez les conseils du docteur Anissé Kipassa, expert en santé publique. Il est ancien vice-président du comité scientifique de lutte contre Ebola à Kikwit en 1996. Il intervenait dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier soir, animée par Guy Maté. C'est un extrait proposé par Alain Rung.
Les cinq règles d'or, comme les cinq doigts de la main, la première des choses, même s'il n'y a pas encore de vaccin pour cette souche, ne cédez pas à la panique, ne vous fiez pas aux rumeurs. Suivez et appliquez de façon stricte les règles et les recommandations des autorités politiques administratives, des professionnels de santé, des médecins et des agents de la santé. Deuxième règle d'or, l'hygiène. Évitez les embrassades, les accolades dans cette période. Lavez régulièrement les mains au savon ou au cendre et utilisez la solution hydroalcoolique. 3. En cette période, évitez de manipuler, toucher, de piécer, de séquer les viandes, les gibiers trouvés morts dans la forêt. 4. Évitez tout contact non protégé avec les humeurs corporelles, du sang, des urines, des vomiques, la sueur, même les larmes, les selles et même les mariés. Attention au sperme, ça peut contenir aussi le virus. Évitez de manipuler les effets personnels des gens, des cas suspects qui étaient malades, ou à la rigueur, brûlez-le. Les derniers, en cas de convalescence, parce que même là, il y aura des convalescents. Évitez les contacts sexuels pendant quelques mois ou quelques semaines.
Et par rapport à ce 17e épisode de cette maladie, cet apport des États-Unis, le département d'État américain affirme coordonner une réponse globale à l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo et en Ouganda. Dans les 48 heures, le département a activé un plan d'intervention et mobilisé une première tranche de 13 millions de dollars américains d'aide étrangère pour les efforts de réponse immédiate. Cette annonce est faite dans un communiqué publié ce mardi. Que retenir d'autre de ce document, Alain Roux?
Selon les départements d'État américains, ce financement renforce la réponse de chaque pays en soutenant la surveillance, les capacités des laboratoires, la communication des risques, les inhumations sécurisées, le contrôle aux entrées et sorties du territoire et la prise en charge clinique des cas. Le département d'État américain s'apprête à annoncer un financement bilatéral supplémentaire pour la réponse à l'épidémie et l'aide humanitaire, à mesure qu'il recueille des informations complémentaires sur l'ampleur de l'épidémie. Ce financement additionnel s'appuie sur les investissements américains dans la surveillance des maladies et la détection des épidémies, ainsi que sur les efforts de réponse déployés dans le cadre des protocoles d'accords bilatéraux en matière de santé signés avec la RDC et l'Ouganda dans le cadre de la stratégie de santé mondiale « L'Amérique d'abord ».
Deux jours après la reprise des activités au péage de Kasangoulo au Congo central, les embouteillages ont refait surface sur la route nationale numéro 1 reliant Kinshasa à Matadi. Les conducteurs dénoncent un désordre qu'ils estiment organisé au niveau du péage qu'ils considèrent comme la principale cause de ces bouchons plutôt que les travaux en cours sur la chaussée. Les usagers appellent les autorités à intervenir rapidement afin de rétablir la fluidité du trafic. Élise Kavira.
Pendant 48 heures, le ministre des Travaux publics avait suspendu les activités au péage de Kasangoulou afin de faciliter la circulation. À peine les activités reprises, plusieurs usagers pointent du doigt les agents du péage qu'ils considèrent comme les principaux responsables du désordre observé. Parmi eux, John Landou, chauffeur sur l'axe Matadi-Kinshasa, livre son constat.
Ce sont les arrangements entre les agents du péage et certains chauffeurs, notamment ceux de remorque, qui provoquent les embouteillages.
Cette situation perturbe fortement les échanges entre le Congo central et Kinshasa. Zaina Mapela, commerçante qui effectue au moins un voyage par semaine, déplore les pertes liées aux heures perdues dans les embouteillages.
Les deux jours de suspension des activités au péage avaient apporté une réelle amélioration. Et depuis la reprise, nos marchandises pourrissent, nous arrivons tard dans la nuit et devons attendre le matin pour vendre. Cela nous cause d'énormes pertes.
En attendant des mesures durables, les usagers demandent un suivi plus rigoureux du péage de Kasangoulou afin de réduire les embouteillages sur cet axe stratégique. Matadi, Elise Kavira, Radio Kapi.
Au Kasai central, les vendeurs du marché d'Ibamba Bukimai dans la ville de Kananga dénoncent le manque d'installations hygiéniques et l'insuffisance d'espace. Ce marché est menacé par un ravin qui a considérablement réduit sa superficie. Cette situation met les commerçants en difficulté et pousse plusieurs d'entre eux à installer leurs étals sur la chaussée avec tous les risques d'accident. Les vendeurs plaident auprès des autorités pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Des détails dans ce reportage d'André Katendengalamoulume.
Situé à la limite des communes d'Endesha et de Lukonga, le marché du Bamba Bukemai est l'un des principaux lieux de négoce de la ville de Kananga. Mais aujourd'hui, ce marché est menacé par un ravin qui a réduit son espace. Certains vendeurs s'installent près du ravin, tandis que d'autres étalent leurs marchandises sur la chaussée. Une situation qui met leur sécurité en danger. Autre difficulté signalée, l'absence d'installations hygiéniques. Des vendeurs rencontrés sur place se disent inquiètes. Elles affirment payer des taxes, mais travaillent dans des conditions qu'elles jugent inhumaines.
On m'a installé à côté du ravin. Si vous apprenez que je suis tombée dans les ravins, ce sera vrai. Que nos autorités nous viennent en aide. Plusieurs personnes vendent sur la chaussée parce qu'il y a un ravin derrière les marchés.
Contacté à ce sujet, les bourgmestres de la commune d'Endesha, responsables de ces marchés, indiquent que Dibamba n'est pas un marché officiel. Selon André Longué, sa commune ne dispose pas des marchés publics. Il précise toutefois que cet espace a été aménagé pour permettre à la population de mener ses activités commerciales. Kananga, André Katendengalamoulume, Radio Okapi.
Nous sommes au Sud-Kivu. Les usagers de la route nationale numéro 5 reliant Bukavu à Uvira déplorent d'importantes pertes économiques. Depuis 6 jours, le trafic routier est interrompu le long de ces axes. Selon les autorités, c'est pour renforcer la sécurité entre Kamanyola, sous contrôle de la FCM-23, et Luvungi, tenu par les FRDC. Jean Kassami nous décrit la situation.
Des produits périssables destinés au commerce entre les villes de Bukavu et Uvira sont déclarés avariés à bord des véhicules de transport des biens et des marchandises. Une centaine de véhicules et de passagers à bord se trouvent bloqués à Katogota. François Iguilima, défenseur des droits de l'homme.
Il n'y a que deux véhicules qui se trouvaient entre Kamanyola et au-delà de Luvungi que le gouvernement congolais a autorisé de venir vers Uvira. En attendant de surveiller les actions du M23.
De son côté, le coordinateur du mouvement citoyen Macho Ziaraïa plaide pour la rouverture immédiate de la RN5 à partir de Kamanyola en passant par Katogota jusqu'à Uvira.
La RN5 est une route vitale pour la population d'Uvira, de Bukavu, de Baraka, de Fizi et d'autres territoires. Elle relie des familles, des activités commerciales. Le moment est difficile, mais la souffrance de cette population mérite plus d'attention dans les prises de décision.
Ces mouvements relaient également les plaintes des usagers qui sollicitent la suppression pure et simple des barrières payantes érigées par les forces loyalistes à Kasambura, Biriba, Runingu et Kala. Bukavu, Jean Kasami, Radio Okapi.
Actualité internationale.
L'Ouganda instaure des contrôles aux frontières face à l'épidémie d'Ebola. Le pays a déjà enregistré son premier cas de patient atteint de la nouvelle souche Bundi Ebugyo. Les autorités craignent une contamination à grande échelle. Des mesures de désinfection sont mises en place par endroits depuis l'alerte sanitaire internationale décrétée par l'OMS dimanche. Et puis le trafic des fourmis moissonneuses géantes gagne du terrain au Kenya. Des experts tentent de les stopper. Des milliers de rennes de cette espèce sont capturées et expédiées à l'étranger dans des seringues et des tubes à essai, pour être vendues jusqu'à $230 chacune.
L'invité.
Il s'agit de Dr. Georges Baka, il est directeur médical adjoint à l'hôpital public de référence au secondaire de Kinkanda dans la ville de Matadi au Congo central. Il nous parle de l'hypertension artérielle appelée aussi tueur silencieux qui constitue aujourd'hui un véritable problème de santé publique. Selon les derniers rapports de l'OMS, l'hypertension artérielle touche un adulte sur trois. Elle tue environ 9 millions de personnes par an dans le monde, ce qui équivaut à plus de 24 000 décès par jour. Ces chiffres ont été révélés à l'occasion de la journée internationale de lutte contre cette maladie le 17 sommet à Matadi. Docteur Georges Baka s'entretient avec Élise Kavira.
Bonjour docteur Baka. On entend souvent parler de l'hyper et de l'hypotension. En des termes plus simples, comment pouvez-vous nous expliquer cela?
En des termes simples, l'hypertension artérielle peut être définie comme une élévation des chiffres tensionnels. L'hypotension artérielle, c'est plutôt une diminution de la pression du sang en deçà des limites normales, et cela de manière durable.
Pourquoi appelle-t-on cette maladie un tueur silencieux?
C'est une maladie qui est appelée tueur silencieux parce que pendant une longue période, la maladie peut déjà s'installer sans donner une symptomatologie. Et c'est pourquoi d'ailleurs, très souvent, la découverte est fortuite en milieu hospitalier.
Qu'est-ce qui cause l'hypertension?
Sur le 100% des patients hypertendus, chez 90 à 95%, il y a ce qu'on appelle les causes primaires. Donc ça veut dire que c'est inconnu. Donc il y a plutôt des facteurs favorisants. D'abord l'alimentation, avec une consommation excessive en sel, la prise d'alcool, l'hérédité. Mais également il y a le mode de vie, la sédentarité, l'augmentation du stress. Dans notre vécu quotidien, nous sommes soumis de plus en plus à un stress important. Ici, il faut noter que avec l'âge, il y a le vieillissement des vaisseaux. Et donc, ces vieillissements peuvent également baliser un peu le chemin pour qu'il y ait éclosion d'une hypertension artérielle. Et de l'autre côté, il y a les maladies qui peuvent entraîner l'hypertension artérielle, comme l'insuffisance rénale, les maladies endocriniennes. Nous avons également la prise de certains médicaments, comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Tout ça, ce sont des causes secondaires qui peuvent entraîner la survenue de l'hypertension artérielle.
Quelles sont les tranches d'âge les plus touchées par l'hypertension? Est-ce que les enfants sont également touchés par cette maladie?
Là où nous avons un pourcentage élevé des patients, c'est en tout cas au-delà des 60 ans, des 65 ans. Et comme c'est un tueur silencieux, donc c'est une maladie qui peut déjà commencer, déjà à partir des 30 ans, jusqu'à donner une symptomatologie plusieurs années après. Mais nous notons aujourd'hui, avec la modification des habitudes alimentaires, de plus en plus, nous avons des cas d'hypertension artérielle en pédiatrie, pratiquement chez les enfants. Donc, et ça, c'est vraiment inquiétant, nous devons le signaler parce que aujourd'hui, avec les changements de style de vie, vous voyez aujourd'hui des enfants passer plusieurs heures devant la télé, cette sédentarité-là, ça influence. En tout cas, nous avons de plus en plus de cas d'hypertension artérielle chez les enfants.
Vous venez de parler des mauvaises habitudes à éviter. Inversement, quelles sont les bonnes habitudes à adopter pour se prémunir contre l'hyper ou l'hypotension?
Déjà, du point de vue alimentaire, il faut éviter les excès. Donc, il faut avoir une alimentation pauvre en sel, pauvre en graisse et pauvre en sucre. Éviter une prise excessive d'alcool. Réduire sensiblement votre stress, c'est un élément très important pour se prévenir de l'hypertension artérielle. Il y a certaines attitudes médicales qu'il faut adopter, comme avoir un tensiomètre à la maison, parce que c'est toujours important de contrôler sa pression artérielle dans un environnement où l'on se sent le plus à l'aise possible, parce que c'est toujours important de connaître ses différents paramètres, ses chiffres tensionnels, son poids, sa taille, son statut hémoglobinique. Donc, de plus en plus, il y a des informations médicales que nous devons connaître. Mais il s'y est de noter ici que vous pouvez prélever les chiffres tensionnels chez vous. Mais il faut développer une culture du check-up. Il faut toujours prendre le temps de passer, consulter un médecin. se faire checker parce que l'hypertension artérielle donne également des signes qui peuvent être confondus à une autre pathologie. Donc quand vous voyez des maux de tête, une douleur thoracique, des troubles visuels, de la fatigue, ce sont des signes qui, lorsque vous les observez, il faut toujours consulter un médecin. Et aux patients déjà reconnus hypertendus, les conseils, c'est de respecter les traitements que le médecin a instaurés, prendre régulièrement ces médicaments. La cessation ou la suppression de la prise médicamenteuse est décidée par les médecins. Je profite d'informer à la population qu'il y a au mois de mai, pour nous qui sommes dans la ville de Matadi, nous avons initié un dépistage. Nous allons prélever auprès de 30 à 50 000 personnes les chiffres tensionnels. C'est une activité qui a commencé depuis samedi 16 mai. Nous en profitons pour demander à la population d'adhérer à cela parce que c'est très important que vous puissiez connaître votre chiffre tensionnel ou s'il y a déjà des problèmes, vous orienter pour que vous soyez suivi, consulté et soigné en bonne et due forme.
Docteur Georges Baka, merci d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie.
Docteur Georges Baka, directeur médical adjoint à l'hôpital public de référence secondaire de Kinkanda à Matadi. Merci à vous qui venez de suivre ce journal. Il a été préparé par Alain Rong et Lise Chikota Chivuita avec Alain Goy à la technique, Babel Pongo Massimango à la présentation. Bon après-midi.